C'est le moment de retrouver notre émission mensuelle Lecture de textes de littérature féminine et féministe par Jacqueline Engrave, bien sûr, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour Tiffany, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous lisons des extraits d'un livre d'une jeune autrice de best-seller qui s'appelle Lorraine Bastide. Lorraine, L-A-U-R-E-N, et Bastide, comme une Bastide. Un livre intitulé « Enfin seule », paru en 2025, c'est-à-dire l'année dernière, aux éditions Alary. Alors, je commence par lire la quatrième de couverture, parce qu'elle présente le propos du livre dans son ensemble. Les femmes ont mis des siècles à conquérir le droit d'être seules, à s'affranchir de la surveillance du père, du mari, de la société. Aujourd'hui, enfin, elles le peuvent, mais leur solitude reste mal vue, y compris par elles-mêmes, nombreuses à la vivre comme une souffrance ou un échec. En mêlant analyse historique et récit personnel, Lorraine Bastide invite à changer de regard sur les femmes seules, celles qui ne sont pas en couple, celles sans enfants ou dont les enfants ont quitté le nid, celles qui voyagent en solitaire, celles qui n'ont besoin de personne, ou essaient en tout cas. Il existe dans la solitude la promesse d'une émancipation, d'une estime de soi renouvelée et de la possibilité d'habiter le monde enfin à son rythme. La solitude peut être une chance pour toutes les femmes, quel que soit leur âge et leur situation. Je cite donc un extrait du chapitre 4, « Bâtir sa cabane, se libérer des regards », pages 115 et suivantes. « J'ai dû désapprendre la maison qu'on m'avait ordonné de rêver, la maison famille, la maison foyer, la maison jugement, celle qui me disait de me faire utile et silencieuse. » Pour ériger ce refuge, il m'a fallu d'abord détruire cette maison-là, au moins symboliquement, pour bâtir autre chose, une maison sans verrou, une cabane. Et ça me revient, quand j'étais petite, dans la cour de récré avec mon amie Céline, on jouait à un jeu qu'on avait inventé et qui s'appelait « Passé, présent, futur ». Dans le passé, qui correspondait à l'espace de la cour où les garçons jouaient au ballon, on risquait à tout moment d'être agressé, tué, violé. Oui, il y avait la pensée du viol dans nos jeux d'enfants, je ne sais pas d'où je la sortais. Dans le futur, qui correspondait à la partie de la cour qui s'étendait entre le préau et les classes, des robots voulaient nous capturer. On mimait la poursuite, on se débattait dans le vide. Et puis, il y avait le présent. Un tout petit recoin de la cour, un renfoncement discret, près d'une porte de bois qui ne s'ouvrait jamais. On l'appelait « notre cabane » et notre imagination la peuplait d'écureuils, de castors et d'oursons que l'on câlinait et nourrissait de toute notre attention. C'était notre refuge, l'endroit secret où l'on échappait aux dangers du monde extérieur. C'est ça, la cabane, un lieu qui échappe à la surveillance des adultes, des hommes, de la société. Le lieu par excellence de l'enfin solitude. Elle écrit « enfin solitude » en un seul mot, en italique. Mais l'ange du foyer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fée du logis, l'ange du foyer n'aime pas les cabanes. L'ange du foyer aime les maisons fermées, les carreaux nets, les sols cirés. Tout comme nous avons dû, adolescentes, faire taire notre voix authentique pour devenir calme et désirable, on a relégué nos cabanes au fond d'une malle, avec leurs rêves bizarres et leurs animaux imaginaires. Et aujourd'hui encore, il est difficile de les laisser réapparaître. C'est justement ce que montre Erika Flao. Flao, F-L-A-H-A-U-L-T, dans « Une vie à soi », 2009. Enquête menée auprès d'une trentaine de femmes vivant seules chez elles. Ces femmes seules se retrouvent, comme les femmes au foyer, prisonnières d'une solitude où rôdent encore les injonctions et les attentes sociales. L'enfin solitude reste pour beaucoup un mirage. Bien qu'elle recouvre une immense variété de vécus, l'expression « femme seule » apparaît dans l'espace médiatique à partir des années 1970, souligne la sociologue en introduction. Dans les discours des médias, leur situation est toujours présentée comme, entre guillemets, un manque, une privation, un échec. Pourtant, les femmes seules d'Erika Flao présentent une grande variété de profils. Elles sont âgées de 31 à 85 ans. Flao distingue trois groupes: les femmes en manque, les femmes en marche et les apostates du conjugal. Premièrement, les femmes en manque souffrent d'un sentiment d'incomplétude. Leur quotidien est structuré autour des absents, enfants partis, maris défunts. Leur temps libre reste un luxe coupable. Leur intérieur est impersonnel, standard, tiré au cordeau. Il est figé dans la vie d'avant. Elles ne vivent pas chez elles, leurs journées sont rythmées par des gestes automatiques dont l'utilité pour soi-même n'est jamais reconnue. Elles n'envisagent leur vie dès lors que comme, entre guillemets, une pente descendante, une soustraction. Deuxièmement, les femmes en marche parviennent à se desserrer de l'étau domestique. Beaucoup délèguent certaines tâches. Leur solitude est vécue comme une libération, mais aussi comme un espace à apprivoiser. La gestion du temps libre et du rien faire, en italique, reste difficile, tant l'intériorisation des rôles féminins est forte. Le dilemme est là, elles savent prendre soin, elles savent faire, mais se retrouver au centre de ces gestes les culpabilise encore. Enfin, les apostates du conjugal. Là, je précise, l'apostasie, c'est une renonciation, en l'occurrence ici, une renonciation au conjugal. Les apostates du conjugal sont celles qui, à un moment de leur vie, ont dit non. Non à la cohabitation, non à l'assignation. Elles ont conquis un espace, un temps à elles, et sont capables de savourer ce qu'est vivre seule pleinement. Elles ont conquis leur vie à soi. Ces femmes sont, pour la chercheuse, parvenues au degré le plus achevé de l'appropriation de l'espace et du temps, conjuguent de façon équilibrée rapport aux autres et retour sur soi. Elles vivent seules au sens fort du terme. Autrement dit, ce troisième groupe, ce sont les femmes qui s'exclament le soir en se brossant les dents dans leur salle de bain « Ah, qu'est-ce que je suis bien !» Ce qui m'a frappée dans cette enquête, c'est le rôle central des tâches ménagères. Elles agissent comme un révélateur. Celles qui parviennent à se libérer du poids de l'ange du foyer peuvent plus facilement accéder à leur intériorité. Ce sont toujours ces gestes invisibles du soin qui nous piègent. Cuisiner pour soi, nettoyer pour soi, ranger pour soi. Comment accomplir avec fierté ces gestes systématiquement dévalorisés, relégués? Comme Manon Chollet l'a montré dans « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », le travail du soin est conçu pour être caché à l'arrière-plan, hors du regard du maître ou du mari. En 1975, Simone de Beauvoir disait dans une émission de télévision, je la cite, elle la cite, « Si les femmes faisaient la révolution sur le plan du travail ménager, si ce travail n'était plus ce travail clandestin auquel elles sont condamnées, parce que je trouve que mener cette vie à longueur d'année sans rien de productif, c'est vraiment une condamnation, eh bien, toute la société en serait bouleversée. » Alors que faire? Peut-être poser sur nos intérieurs un regard neuf, briser les serrures, casser les murs, ouvrir la porte, cesser d'en faire le bunker de la famille, ce lieu clos où s'accumulent les violences qu'on sait. Ouvrir la maison, c'est la politiser. Car la maison est un fantasme, une invention. Les écoféministes rappellent qu'avant la Renaissance, la maison comme espace privé cloisonné n'existait pas. On vivait dans des maisonnées ouvertes. Dans ces communautés, frères, sœurs, apprentis, voisins coexistaient et participaient collectivement à la subsistance. L'arrivée de la maison moderne et de la figure de la femme au foyer est venue détruire ce tissu, en fragmentant les tâches et en les genrant. Elle a isolé les femmes pour les transformer en consommatrices assignées à la sphère privée. Les hommes et les enfants ont hérité d'un espace de loisirs pendant que les femmes s'activaient dans un cadre clos. Nous avons fini par vivre dans des foyers isolés, avec pour tâche uniquement le bout du bout de la chaîne de production, acheter, cuisiner, ranger. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser le passé, mais de réinterroger la maison et ses murs et de comprendre ce que cela signifie lorsque certaines femmes parviennent à briser ces murs. C'est précisément ce que réussissent les apostates du conjugal du livre d'Erika Flao. Elles témoignent d'un soulagement immense à s'être affranchies des contraintes domestiques tout en maintenant des intérieurs chaleureux, accueillants, mais débarrassées des injonctions aux nettes et bien rangées. Chez elles, les maisons respirent, les murs racontent qui elles sont, livres en pagaille, objets choisis, traces visibles de leurs loisirs et de leur liberté. Leur maison est ouverte à l'extérieur, aux amis, aux alliés, à celles et ceux qui forment une communauté, non pas par la famille, mais par les goûts, les identités. Ces femmes sont enfin chez elles, mais elles ne s'y enferment pas. En se détachant de la figure de la femme au foyer, elles recréent quelque chose qui s'approche de l'idéal de la maisonnée. Un lieu poreux, vivant, traversé de circulation et d'échanges. Oui, il est temps de transformer notre regard sur la solitude des femmes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci Jacqueline.
Merci à vous, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Au mois prochain.